Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Christ est le mystère de Dieu révélé » prêché le 28 juillet 1963 par notre précieux frère et prophète William Marion Brennan. Merci, Frère Neville, que le Seigneur te bénisse. Restez debout un instant pendant que nous inclinons la tête pour prier. Bienveillant Père Céleste, nous nous approchons à nouveau de toi ce matin pour recevoir la miséricorde et la conduite du Saint-Esprit aujourd'hui, puisque nous avons compris que nous devions nous réunir ce matin et enseigner ta parole, afin que nous sachions comment vivre en ce jour-ci et à quelle heure du jour nous vivons. Nous demandons ta sainte conduite sur nos pensées, sur nos cœurs aujourd'hui. Veuille nous diriger vers chaque parole qu'il est nécessaire pour nous de connaître. Veuille ouvrir librement nos bouches et aussi nos cœurs afin que nous recevions et ce que tu voudras bien nous dire, et veuille fermer nos bouches aux choses qui ne sont pas justes, sachant que toi seul peux révéler la parole de Dieu. Et maintenant, comme je dois quitter cette petite église tout de suite après pour me rendre dans les autres régions du monde, je te les confie, Seigneur, eux qui sont le cœur, les chéris de mon cœur, pour ainsi dire. Ce sont ceux qui t'ont été engendrés par l'Esprit et par la parole de vérité. Je te prie de les bénir, Seigneur, et de les garder soudés par les liens de l'amour de Christ. Bénis notre très cher pasteur, le berger. Nous te prions de loindre du Saint-Esprit de ta parole, de la révéler aux gens et de paître le troupeau. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture, car il viendrait un temps où on en aurait besoin de tout ceci. Alors nous avons vu Frère Sutton et Frère Wood qui s'apprêtaient à faire la traversée pour se rendre dans un autre pays, mais tu as dit « emmagasine cette nourriture ici pour ce temps-là ». Seigneur, avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. Et maintenant, ce matin, pendant cette leçon à laquelle nous avons pensé, je te prie de couronner le tout, Seigneur, pour montrer que tu es Dieu et que ceci est ta parole et ta vérité. Accorde-le, Seigneur, afin que les gens puissent se nourrir de cela et pour ainsi dire s'engraisser dans la grâce de Dieu, qu'ils voient que c'est la grande miséricorde de Dieu envers nous en ce jour-ci. Bénis tous ceux qui sont présents, de même que ceux qui aimeraient être présents, Père, et que la gloire te revienne, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse maintenant chacun de vous sans exception. Et juste avant de commencer, je crois que nous avons ici un petit bébé de la famille Collins. J'ai rencontré le père il y a quelques instants et il y avait un petit bébé qu'il voulait faire consacrer. Alors nous voulons le faire maintenant. Si frère ou sœur Collins ou l'un ou l'autre veut bien amener le petit devant pour que nous puissions avoir le service de consécration de ce petit. Le fait de partir, vous savez, eh bien, ça incite, comme ils sont des membres fidèles, sont du corps de Christ. Vous remarquerez que je n'ai pas dit du tabernacle, des corps de Christ. Mais ce corps, ici, étant une partie de son corps, ils ont ici un petit qu'ils veulent faire consacrer. Et c'est toujours un travail, je pense, pour lequel ma femme m'envie, tenir les bébés. Oui, Frère Neville, si tu veux bien t'avancer, s'il te plaît. Quel est votre prénom, frère? Voici frère et sœur Clyde Collins. C'est le frère de notre précieux frère ici, le révérend Collins Wilbur. Et je vois que le nombre des Collins a augmenté ici. Un petit très mignon. Quel âge a-t-il, sœur Collins? Presque 4 mois. Et comment s'appelle-t-il? Mark David. C'est un très beau nom. Il a l'air d'être un très gentil garçon, dis donc, et c'est aussi un gros garçon. Je sais que les mères qui sont là peuvent apprécier ce petit ici, n'est-ce pas qu'il échoue? Très bien, maintenant, alors que nous inclinons la tête, Père Céleste, voici ce jeune père et cette jeune mère qui viennent avec ce petit poupon tout poitelé, issu de leur union, qui leur a été confié par le Seigneur Dieu pour qu'ils en prennent soin. Ils amènent ce petit Marc David ici respectueusement pour sa consécration au Tout-Puissant qui a confié à leurs soins ce petit trésor en bonne santé et un gentil garçon afin qu'il soit élevé à la gloire de Dieu. Seigneur, bénis le père et la mère. Que le pot ne soit jamais vide à la maison et la cruche jamais à sec. Que le père soit en bonne santé et capable, Seigneur, de travailler et de pourvoir à la nourriture de ce petit. Que la mère soit en bonne santé et capable de la préparer. Et que leur cœur soit préparé, Seigneur, à enseigner ce petit, à l'élever en l'instruisant selon Dieu. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, de leurs bras aux miens, passe ce bel enfant, le petit Marc David, et avec l'ancien de l'Église ici, je te l'offre au nom de Jésus-Christ pour une vie de service. Accorde-le, Seigneur. Sois glorifié par sa vie. Puisse-t-il avoir une longue vie, vivre même jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, si cela t'est agréable. Et si oui, alors puisse-t-il un jour porter le message du Seigneur Dieu dans l'âge à venir. Accorde-le, garde-le en bonne santé, heureux, et que son cœur soit toujours déterminé à faire les choses qui sont justes devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'offrons cet enfant pour qu'il te soit consacré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Sœur Collins, ainsi que ce gentil garçon, et vous, Frère Collins, que Dieu soit avec vous. Amenez-les tous en cœur. Amenez-les. Amenez-les. Éloignez-les des champs du péché. Amenez-les. Amenez-les. Amenez les petits à Jésus. J'aime ça. Vous voyez? Amenez-les à Christ avant même que le diable ait la possibilité d'agir. Ils lui sont alors déjà offerts pour une vie de service. Est-ce que quelqu'un sait si oui ou non la famille Dow, si l'un d'entre eux est là aujourd'hui? Sœur Dow, Frère Brown, es-tu ici? Frère Brown? Oui, je suis content. Et Frère Dow, tu es toujours avec nous? Merveilleux. Frère Dahl a fini, failli nous quitter. Vous voyez, il ne faut pas trop dire ni trop demander. Il a déjà passé de 20 ans, 21 ans, le temps que Dieu lui a déclaré qu'il vivrait, c'est-à-dire une durée de vie habituelle. Il a dépassé le temps que Dieu lui a déclaré qu'il pourrait vivre. Mais l'autre matin, nous avons reçu un appel où nous disait qu'il était à l'article de la mort. Alors nous nous sommes précipités là-bas. Le Seigneur Dieu a été vraiment bon pour lui et l'a épargné. C'est que je pense qu'il est prêt et attend simplement la venue du Seigneur. Mais vous savez, on se cramponne tous les uns aux autres. Cet homme âgé est comme un père pour moi ici. Je me souviens qu'il était assis ici dans l'ancien tabernacle, la partie ancienne, lorsque cette lumière l'a éclairé sur le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Il a aussitôt quitté sa place et s'est avancé. Et âgé d'environ 87 ou 88 ans, en s'appuyant sur une canne, aussitôt il s'est avancé jusqu'ici et a dit, « Je veux tout de suite entrer dedans et être baptisé. » Quelqu'un est allé lui chercher des vêtements. Il ne pouvait pas attendre la fois d'après. Il fallait qu'il vienne tout de suite, vraiment. J'aime ça. L'autre jour, il a dit, je causais avec lui. Il a dit, pensez-vous que tout va bien pour moi maintenant, Frère Branham? J'ai dit, êtes-vous déjà allé chez un médecin pour un bilan de santé? Oui, monsieur. J'ai dit, le médecin met les stéthoscopes dans ses oreilles et pose cela sur votre cœur pour voir si votre cœur bat correctement. Il fait un électrocardiogramme et puis il prend votre tension, fait une analyse d'urine et tout le reste. Il utilise des instruments pour évaluer votre état physique. Or, sa manière de procéder, c'est de consulter un livre là où des spécialistes dans ces différents domaines ont écrit « Si telle chose arrive, voici ce qui ne va pas. » Et j'ai dit « Or, moi, le seul stéréoscope que j'ai, c'est la Bible, voyez, pour l'âme. » Et j'ai dit « Je vais vous faire passer cet examen. » J'ai dit « Jean 5, 24 dit « Celui qui écoute mes paroles. » J'ai dit ça, ce n'est pas seulement être assis à l'écouter, c'est la recevoir, voyez. La recevoir, vous y croyez. Quelque chose à l'intérieur de vous vous dit qu'elle est vraie. Vous l'avez acceptée, vous y croyez. C'est votre propriété. Celui qui écoute, c'est déjà votre propriété, mes paroles. Et qui croit, celui qui m'a envoyé, vous croyez ça? Il a dit oui. J'ai dit, alors je vais vous dire ce que le médecin-chef a dit. Il est passé de la mort à la vie. Il ne viendra plus en jugement. Il ne sera plus condamné. J'ai dit, pour autant que je sache, d'après les livres, vous avez réussi l'examen. Ce vieux monsieur de près de 100 ans, pas du tout un homme d'Église, mais la première fois que cette lumière a illuminé son sentier, il l'a reçue. Voyez cette semence prédestinée qui se trouvait là? Ah oui, oui, monsieur. Voyez, dès que la lumière la frappe, elle prend vie aussitôt. Maintenant, je sais qu'il fait chaud aujourd'hui et je suis un peu mal à l'aise de vous demander de vous rassembler pour un service où vous êtes entassés comme ceci. Mais malgré tout, j'ai pensé par la grâce de Dieu avoir encore un service avant de devoir vous quitter pour peu de temps, j'espère. Je dois partir pour Chicago demain soir, là, pour commencer mercredi. Pensez arriver un peu en avance, si possible, pour me reposer un peu avant de commencer une série de réunions. Et je crois qu'ils l'ont... Tenez, je regardais justement ça ici. Cela a été annoncé là-bas. Ça s'appelle Marengo. Le secteur, oui, Marigold. Oui, le secteur stade. Le stade Marigold, c'est l'endroit où ça aura lieu à partir de mercredi soir jusqu'à dimanche. Et les hommes d'affaires du plein évangile auront aussi un petit déjeuner le samedi matin. Et je ne sais pas au juste s'ils ont annoncé l'endroit où ça aura lieu. Non. Et puis, samedi soir, ce sera à la salle Lane Tech. Je vois que c'est ce qui est annoncé ici. Alors, si vous êtes dans le secteur ou là-bas, il est prévu un service ordinaire d'évangélisation comme ceux que nous avons tout le temps. La plupart des messages traiteront surtout de choses qui ont été enseignées ici parce que c'est ici que nous faisons nos bandes. Voyez, alors ailleurs, ils pourraient faire des histoires. Par contre, ils se procurent des bandes faites ici. Ils peuvent écouter n'importe quelle bande. Ça les regarde. Celles-là viennent directement d'ici, ici, à cette chaire. C'est chez nous. Donc ailleurs, en général, j'essaie de choisir quelque chose qui ne soit pas trop profond parce que pour beaucoup, l'expérience et l'enseignement reçus sont superficiels. Par contre, ici, j'estime que j'ai le droit de dire tout ce que Dieu place sur mon cœur, de le dire ici même. Par conséquent, toutes nos bandes sont faites ici même. Voyez, ils sont là dans le local en ce moment. Vous pouvez voir leur tête qui dépasse derrière, la verre teintée. C'est là qu'ils sont assis avec leur appareil enregistreur. Alors, si vous voulez venir aux réunions, nous serons très heureux de vous avoir parmi nous. Si vous arrivez là et que vous ne savez pas exactement où aller, eh bien, vous n'aurez qu'à contacter quelqu'un des gens du plein évangile ou Frère Carlson et il vous dira ce que il pourra vous conseiller, lui ou l'Église de Philadelphie, n'importe qui parmi eux, qu'ils pourront vous dire exactement comment arriver sur place. Puis je reviens lundi prochain, dans le courant de la soirée, de l'après-midi ou de la soirée, et mardi, nous retournons en Arizona pour mettre les enfants à l'école et tout. Et après, je ne sais pas exactement quand je serai de retour, parce que le Seigneur, je veux qu'il me conduise, me montre ce que je dois faire. Une chose très étrange est arrivée, je ferai aussi bien, je sais que ceci est enregistré, alors je ferai aussi bien d'inclure ça. C'est pendant que les visions et la conduite du Saint-Esprit sont en action que j'aime aller de l'avant, précisément pendant qu'il est en action. Alors, cette dernière année a été l'une, eh bien, vraiment l'une des périodes les plus intenses de tout mon ministère pour ce qui est des visions. Cette dernière année, des choses qui se sont produites, et vous ici, vous êtes au courant, hein? Ces choses sont prédites avant qu'elles arrivent et elles sont arrivées exactement comme elles avaient été annoncées. Donc, nous sommes revenus ici et pour une visite. Le climat de cet endroit, je ne l'aime vraiment pas parce que ça me met à plat dès que j'arrive. Je franchis les collines là-bas et je descends dans cette vallée et à peine 10 minutes après mon arrivée, j'attrape l'urticaire, je tombe malade, mal fichu, la tête me tourne, tout paraît lugubre, sombre, alors il faut que je quitte cet endroit, vous voyez. Et l'autre jour, je parlais à ma femme, mais ce qui m'amène avant tout, ce qui m'amène ici, c'est vous tous, vous voyez, cette église. Je vous l'ai dit, de tous les endroits où je suis allé dans ma vie, celui-ci est mon endroit préféré pour venir prêcher l'Évangile. On dirait qu'à la banque, ce qu'on peut faire ici est 10 fois meilleur que n'importe où ailleurs, voyez, c'est pour ça que je dis, là où Dieu fait quelque chose, eh bien, c'est là qu'il faut rester. Mais je pense que le nœud du problème, c'est que je ne suis pas parti la première fois qu'il m'a appelé, et c'est pourquoi il rend la chose pénible pour moi quand je reviens. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, je ferai régulièrement la navette pour prêcher au tabernacle, et vous qui venez de l'extérieur de la ville, vous serez informé. Billy Paul sera ici au bureau et on pourra m'atteindre en tout temps par lui. Nous reviendrons ici pour tenir Et puis, il y a les sept trompettes qu'on va aborder très prochainement, si le Seigneur le veut, les sept derniers fléaux et les coupes et tout ça, dès qu'on le pourra, qu'il fera un peu plus frais, peut-être, ou quelque chose comme le Seigneur conduira. Et maintenant, l'autre jour, quand je suis arrivé, une question a été soulevée à propos de quelque chose. À propos de quelqu'un qui m'avait donné un chèque, c'était spécifié personnel, pour moi précisément et moi seul, impôts payés, libre de frais et tout le reste. Eh bien, nous sommes allés et Billy savait que j'avais pas mal besoin de ce chèque, alors il est allé demander aux avocats si nous pouvions l'encaisser. Il a dit, mais voyons, c'est un citoyen américain, pourquoi ne pourrait-il pas l'encaisser? Voyez, il a dit impôts payés et tout le reste, libre de frais. N'importe quel citoyen peut faire ça. Alors Billy, ça ne le satisfaisait pas. Il va donc trouver l'expert comptable. Celui-ci a dit, mais bien sûr qu'il peut l'encaisser. Il a dit, il est citoyen des États-Unis. Eh bien, alors, il n'était toujours pas rassuré. Il a donc téléphoné Merle Miller, qui est le chef de l'association qui s'occupe des impôts là-bas à Indianapolis. C'était eux, nos avocats, dont Ice et Miller. Alors, certainement, c'est en ordre. Vous voyez, certainement, il peut avoir ce chèque. Il a été libellé à son nom, réservé aux bénéficiaires. J'étais le seul à pouvoir l'endosser et tout. Il ne peut pas être tamponné avec notre... Vous voyez, je n'encaisse aucun chèque. Il m'avait attrapé pour ça la fois précédente. Quelqu'un apportait un paquet de chèques. Il disait, tenez, Frère Branham, à la réunion, je disais, William Branham, eh bien, pendant tout ce temps, le gouvernement surveillait tout ça et je les signais, mettais mon nom et je payais les dettes là-bas à l'extérieur. Mais ils ont dit que quoi qu'il en soit, je devais un arriéré d'impôt sur tout ça, 300 000 $. Donc, c'est là que les histoires ont commencé. Donc, dès que j'ai remis ce chèque à l'encaissement, malheur, voilà l'agent qui réplique en disant, maintenant, nous allons rouvrir son dossier. Alors, ça a été dur à avaler. Et Frère Lee Vale, qui est assis là, je pense que ça va si je le dis. Lui, il était venu ici, ce bon baptiste, très instruit ici, avait... Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ, ici, dans le baptistère, l'autre jour, Frère Lee Vale. Alors, c'est vraiment un homme bien, un frère en Christ. Il a déjà prêché ici, parmi nous. C'est un intellectuel très instruit. Et de plus, un homme conduit par l'Esprit. Lorsque la lumière l'a éclairé, il dit qu'il a essayé de s'y soustraire, mais il n'y est pas arrivé. Alors, je l'ai baptisé ici même, l'autre matin. Il ne pouvait pas supporter ça plus longtemps. Alors, nous sommes venus ici. Nous avons mis nos vêtements, nous sommes entrés. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Eh bien, je me suis dit, puisqu'il avait pris cette bonne nourriture spirituelle, peut-être que pour discuter un peu, nous pourrions prendre de la nourriture naturelle. On va donc au Blue Bar, on s'assoit, on discute, et le sujet qui vient sur le tapis, c'est comment peux-tu laisser les gens te parler de toi comme ça? Or, Frivel est l'un des hommes, il est le plus remarquable que j'ai jamais connu, mais il a la gâchette un peu trop facile. C'est ce que je lui ai toujours dit, vous savez. Donc, j'ai dit, j'espère que tu n'as pas d'objection, Frivel. Donc, j'ai dit, ne t'emporte pas comme ça, reste tranquille, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il a dit, ah, ça pour toi. Peut-être que ça peut aller. Il a dit, mais eh bien, je crois qu'il est tellement intelligent que ces gens-là, intelligents, intellectuels, qu'il rencontre, alors il peut vraiment leur en mettre plein la vue, si bien qu'ils ne savent plus où ils en sont. C'est tout. Donc, j'ai dit, écoute, Frère Vale, nous étions assis au Blue Board. J'ai dit, un jour, David, après avoir été détrôné par son propre fils, chassé du trône, une mutinerie, Israël était divisé, et David avait été ôté du trône par son propre fils. Et il sortait de la ville en pleurant. Et un individu qui n'aimait pas son message des derniers jours, tu sais, qui n'avait aucune sympathie pour lui, un type qui était un peu infirme. Là, il le suivait en se moquant de lui et il a craché sur David. Et le garde a dégainé son épée et il a dit, « Ne lui couperai-je pas la tête à ce chien qui a craché sur mon roi? » David a dit, « Laisse-le. C'est le Seigneur qui lui a dit de faire ça, tu vois? » Il a craché sur lui, il s'est moqué de lui, il a craché sur lui. Il a dit, « C'est le Seigneur qui lui a dit de faire ça. » Eh bien, nous connaissons l'histoire. Comment ça s'est retourné contre lui? Frère Vale pensait qu'il avait fallu beaucoup de grâce pour faire ça. Alors, à peine revenu et entré dans le bureau, l'expert comptable a téléphoné à Billy Paul pour lui parler de ça. Alors, Frère Vale m'a accompagné à la maison. En entrant, j'ai dit à ma femme, c'était au cours de l'après-midi, nous nous sommes retirés dans une pièce, j'ai dit, « Chérie, j'ai quelque chose à te dire. » Nous avions discuté avant que je parte. Elle disait, « Bill, je sais que Dieu t'a envoyé là-bas. Ça, nous le savons tous, mais il ne t'a jamais dit de revenir. » Il a dit, « Maintenant, c'est ce qui m'inquiète. » J'ai dit, « Eh bien, je pense que c'est pour toi et les enfants. Moi, ça m'est égal. Je vais le servir si le Seigneur le veut, peu importe où je vais. » Donc, nous nous sommes retirés là et je lui en ai parlé comme ça. Alors, je me suis retourné, j'ai accroché mon chapeau. Quelqu'un a dit quelque chose comme, « Oh, ce collecteur d'impôts, il faudrait aller en tempêtant comme ça. ça, sans penser à ce que j'avais dit à Frère Vail, j'ai dit, laissez-le, peut-être que le Seigneur lui a dit de faire ça. J'avais à peine dit ça qu'une lumière a brillé sur le mur et a écrit dessus, Frère Vail et ma femme étaient assis là, reviens en Arizona, avec des lettres écrites sur le mur, reviens en Arizona, c'est vrai. Alors, voilà, je pars, amen, je retourne en Arizona. Maintenant, cette semaine a été une semaine de grande bénédiction. Nous avons eu des entretiens privés cette semaine avec des gens qui attendaient depuis les 7 jours, et sans doute que certains, évidemment, on les a fait venir de l'extérieur de la ville, d'un peu partout dans le pays. Mais le matin, avant que les entretiens commencent, pendant que j'étais assis dans la pièce, le Saint-Esprit m'a fait écrire exactement tout ce qu'il savait, tout ce qu'il voulait demander, m'a fait disposer les questions selon l'ordre dans lequel il voulait les poser et leur raconter leurs songes avec l'interprétation avant même qu'eux ne les racontent. Or, ces gens sont présents dans la salle et là, je les laissais parler. Ils disaient, eh bien, Frère Branham, je viens pour telle et telle chose. J'ai dit, maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas pour fraterniser que nous nous sommes réunis ici. Nous ne sommes pas venus ici pour fraterniser les uns avec les autres. Dans votre esprit, dans votre cœur, il y a une question sur laquelle vous butez, et pour vous, c'est de l'inconnu. Peut-être qu'avec l'aide de Dieu, j'arriverai à savoir. J'ai dit, souvenez-vous, la reine du Midi avait aussi des questions quand elle est venue vers Salomon. Et la Bible dit qu'il n'y avait rien de révélé ou rien de caché à quoi Salomon ne put donner de réponse. Et j'ai dit, il y a ici plus que Salomon, voyez. C'est vrai, le Seigneur Jésus a promis, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quelle que soit la chose à laquelle ils pensent ou qu'ils désirent et qu'ils demandent, elle leur sera accordée. Et maintenant, votre question porte sur quelque chose qui vous est inconnu, quelque chose que vous ne savez pas comment aborder, quelque chose au sujet de quoi vous ne savez pas ce qu'il faut faire. J'ai dit, l'Écriture dit encore ceci, que les anges de Dieu campe autour de ceux qui le craignent, donc dans un autre monde qui n'est pas perçu par les cinq sens. Les cinq sens contactent seulement ce monde-ci. Si vous n'aviez pas le toucher, vous ne pourriez rien sentir. Pour vous, le toucher ne serait rien. Ce serait un autre monde. Si vous n'aviez pas la vue, ce que vous regardez serait un autre monde, donc vous ne saurez rien. Donc, ces cinq sens sont les seules voies d'accès que Dieu nous a permis d'utiliser librement. Or, il y a un autre sens qu'on appelle la foi. Mais par la foi, vous montez sur une échelle. Et finalement, vous pouvez grimper tellement haut que vous pénétrez dans un autre monde qui est celui des visions. C'est là que vous pouvez voir. Donc, si vous n'aviez jamais su quelle était la chose que vous sentiez avec votre sens du toucher, que vous n'aviez jamais vu, puis que vos yeux s'ouvrent et que vous la voyez, tout cela serait un mystère pour la personne qui n'a jamais vu. Ce serait un mystère pour elle. Mais voilà, c'est ça. Et là, le Seigneur, avant que nous arrivions ici, pour ces gens venus de l'autre bout du pays, de partout, du nord, du sud, de l'ouest, venus pour ces entretiens, et aussitôt qu'ils avaient fini de parler, exactement les questions qu'ils allaient poser, la chose qu'ils allaient demander, ils disaient, regardez un peu, il se penchait, il y avait un morceau de papier avec chaque question et dans l'ordre précis où ils l'avaient posé, où ils allaient la poser avec ici ou bas, la réponse à leur question exactement comme elle avait été donnée. Le Seigneur est grand, il sait toutes choses. Il m'a tout de même fallu environ 3 jours pour me remettre de cet après-midi-là, tellement ça m'a mis à plat. Mais bon, je m'étais dit que j'allais faire ça avant que nous partions, et c'est la bonne manière, la vraie manière de faire pour les cas individuels. Or, des choses peuvent être dites, et si les gens sont ici, ceux qui sont au courant des secrets des cas qui ont été révélés, qui pourraient carrément, ce serait horrible, ça pourrait pousser au crime, pousser quelqu'un à abattre quelqu'un d'autre ou quelque chose du genre, si ces choses ceci en public, devant le public, ça pourrait provoquer des délits passibles d'emprisonnement et tout le reste, ça pourrait. Par contre, quand on est assis ensemble, comme ça, le Saint-Esprit, rien que deux personnes ensemble, mais nous comprenons bien que ce qu'ils me demandent est privé. Je n'en parle pas, et ce que je leur dis, s'ils veulent le dire ou non, c'est leur affaire, voyez. Mais cet entretien, c'est quelque chose qu'on garde entre nous. Alors, on prend une personne à la fois et on reste là jusqu'à ce que tout soit complètement réglé, voyez, le Saint-Esprit. Et quand on pense à la grâce au Saint-Esprit qui m'a tout dit à ce sujet, pour que chaque personne, toute une file de gens, avant même qu'ils arrivent ici, des gens venus de l'autre bout du pays que je n'avais jamais vu de ma vie, et j'ai tout mis par écrit pour qu'ils sachent les questions dans l'ordre qu'ils allaient les poser, on y avait répondu. Un frère avait des questions sur la semence du serpent auxquelles je n'ai pas pu précisément répondre parce que sa petite demi-heure était écoulée. J'espère qu'il a bien reçu ses réponses sur la feuille. Il avait mis ça par écrit, et comme il n'avait pas pu avoir toutes ses réponses, alors je lui ai simplement remis ce qui avait été écrit là, les réponses sur la feuille. S'il ne l'a pas eu, c'est Billy Paul qui l'a. Je sais que cet homme est assis là. Je viens de le regarder il y a quelques instants. Alors, s'il veut connaître ça, c'est écrit sur une feuille de papier les réponses à votre question. Maintenant, oh, comme le Seigneur est bon. J'espère que tout le monde se sent bien. Oui. Et maintenant, n'oublions pas, là, pendant que je prierai pour ces mouchoirs, d'avoir une pensée pour Frère Dar. C'est un précieux frère et nous voulons avoir une pensée pour lui dans nos prières. Et je vois Frère Ongren, mais je ne vois nulle part Sœur Ongren pour savoir si elle est maintenant remise. Oui, assise près de lui, bien sûr, oui. Je suis bien content. Parce que l'autre soir, on nous a appelé pour vraiment pour une urgence pour elle et sa fille, Sœur Downing. Elles sont sorties de la route et c'est seulement la grâce de Dieu, sinon les deux auraient été complètement écrasées. Et voici qu'elles sont venues tout droit à l'église et elles ont pris le train et sont venues. Je ne vous oublierai jamais. Je vous aime. Dieu le sait. Je vous aime. Oh, et vous traversez le pays quand c'est glissant. Quand je regarde certains frères ici qui viennent de la Géorgie, de l'Alabama et de différents endroits du Tennessee et de partout et qui conduisent leur voiture sur des routes verglacées, glissantes, aller-retour comme ça pour venir ici à une seule réunion. Quand on m'a réclamé d'urgence auprès de Frère Dart l'autre jour, je ne me rendais pas compte que Lima, dans l'Ohio, était si loin. Simplement, je croyais que c'était à deux pas d'ici, mais oh, je suis parti très tôt ce matin-là et je ne suis arrivé là-bas qu'à 1 h de l'après-midi tout en roulant à la limite des vitesses autorisées et sur une roue à 4 voies. Et ça, je me dis que c'est tout près par rapport à tout au sud, d'où viennent ces autres personnes, tout au nord et à l'ouest, d'où elles viennent. Je vous aime, et c'est pour cette raison que j'essaie d'être profondément sincère ici. Et les vieux de la vieille, je vois Frère Creech et les autres qui sont assis là-bas, au fond, en ce moment, et ceux qui sont avec moi depuis toutes ces années, et nous avons grandi ensemble. Je regardais la photo de Mary Jo, il y a 2 ou 3 soirs en arrière, je crois, la première fois que nous nous sommes rencontrés, elle, c'était un tout petit bout de chou, et maintenant, elle est mariée, et je pense qu'elle a des enfants, Frère Creech et Sœur Creech, jeunes, les cheveux noirs, et Meda et moi, et nous voilà, les cheveux gris et tout voûté. Voyez, il y a quelque chose chez les gens comme ça qui vous attache à eux. Voyez, on a envie de rester avec eux. Voyez, il y a quelque chose là qui ramène toujours vos pensées en arrière. Je les cite juste comme exemple pour les autres qui sont ici, les jeunes comme les vieux. Nous attendons avec impatience la venue du Seigneur. Donc, ce matin, Dieu, je crois, m'a mis à cœur d'enseigner une leçon d'école du dimanche ici ce matin, qui, Dieu voulant, sera d'une durée assez longue. Et maintenant, comme ceci est, que je sache, le dernier service que j'aurai pour le moment, et je veux que vous vous souveniez que c'est Frère Neville qui reste ici, à l'Église, comme responsable de ce tabernacle sous la direction du Saint-Esprit. C'est lui qui reste ici et il croit ce message et l'enseigne exactement comme moi. C'est vrai. Et toutes les fois que vous le voudrez, que vous trouverez bon de venir écouter Frère Neville, il vous fera certainement du bien. J'en suis sûr, c'est un grand serviteur de Jésus-Christ. Je connais Herman Neville depuis mon enfance et il n'a pas changé du tout. Il s'est seulement rapproché de Dieu. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu. J'avais été invité à venir sur son estrade méthodiste. Et quand je suis revenu ici au tabernacle, j'ai dit, un jour, je le baptiserai au nom de Jésus-Christ. Et le voici maintenant avec le message. Il va de l'avant, un très brave serviteur. Frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrins. Il ne le montre pas ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me permet de voir un petit peu dans la vie des gens, je sais par où il passe. Beaucoup de choses, vous voyez, il peine vraiment dur et doit supporter beaucoup de tensions et tout. Alors vous ici, soutenez-le, comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse alors qu'il apporte la parole. Aimez-vous les uns les autres, par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant vous formez tous un bon groupe, mais bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement, voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, monsieur. Il tirera sur tout et, s'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur ou un incroyant, l'assiera là et le fera fraterniser avec vous bien tranquillement et tout. Et ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison et il commencera à répandre ça dans l'Église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectueux et doux et gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé, ou pour cette femme, ou pour que la personne en question. Priez simplement pour eux et restez fermement attachés les uns aux autres et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger, respectez-le. Il vous mènera à bon port et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Alors, vous allez garder ça en mémoire. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, ou bien il sortira, ou bien il entrera et deviendra l'un des vôtres. C'est tout. Ne formez jamais de clan parmi vous, n'ayez pas de propos, n'adoptez pas un esprit de clan, nous sommes un. Je ne pourrais pas dire, mais gauche, je suis fâché contre toi, je vais te retrancher parce que tu n'es pas une main droite. C'est ma main gauche, je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste bien en place, que chaque petite partie de mon corps reste bien en place. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions parfaitement unis les uns aux autres. Unis les uns aux autres. Bon, vous avez des bandes là-dessus. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'Église, sur la manière de nous conduire dans l'Église de Dieu, sur la nécessité de nous réunir ici, de nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent là pour pouvoir entrer ici, fraterniser avec vos frères. Si ce n'est pas comme ça que vous vous sentez, alors je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. En effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous exalte, où nous exhorte à d'autant plus que nous voyons s'approcher à ce jour, à nous aimer les uns les autres, d'un amour chrétien, d'un amour divin, à nous rassembler dans les lieux célestes et en Jésus-Christ, et à nous aimer les uns les autres. Ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça, restez étroitement unis. Si le frère vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur ou la sœur, dites, Seigneur, fais que jamais une racine d'amertume ne pousse en moi, parce que cela affectera, cela retirera le Christ de ma vie. Ces acides toxiques de la méchanceté, de la jalousie et de la haine, tout ça éloignerait immédiatement le Saint-Esprit de vous. Ça le chassera de ce tabernacle, ça tuera l'Esprit de Dieu, ou le fera fuir d'ici, ça fera de la peine à votre pasteur, ça fera toutes sortes de choses, voyez, ne faites surtout pas ça. Rapprochez-vous d'autant plus les uns des autres, serrez bien, prenez cette attache, comme le frère l'a témoigné un ministre l'autre soir, là, il parlait d'avoir une attache, il avait vu ça en vision, simplement, c'est ce qui attache toute l'armure de Dieu. Revêtez-la bien, resserrez-la, approchez-vous tout près les uns des autres, aimez-vous les uns des autres, quoi qu'il arrive, parlez avec bienveillance les uns des autres, dites du bien les uns des autres, et alors Dieu vous bénira. Maintenant, ce matin, si le Seigneur le veut, avec son aide et sa grâce, j'ai une série de questions ici, ou plutôt de passages de l'Écriture. Et maintenant, avant d'aborder cela, je crois que j'ai entendu les magnétophones se mettre en marche dans le local. Nous allons maintenant apporter le message par la grâce de Dieu. D'abord, quelques mots de prière. Seigneur Jésus, j'ai dit à ce corps de l'Église qu'ils doivent rester unis par la main immuable de Dieu, leur absolu, la parole. Je les ai avertis comme Paul a averti son troupeau qu'il y aurait des loups qui s'introduiraient. Tu es le même Dieu aujourd'hui qu'en ce temps-là, et cet ennemi est le même. Puisse cette communion fraternelle et ces liens d'amour toujours exister entre ces gens par Jésus-Christ. Aide-nous ce matin, Seigneur, alors que nous lirons la parole, puisse le Saint-Esprit nous la révéler, et qu'ainsi l'Église puisse être pleinement affermie dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, afin de les garder. Et puissions-nous, comme tu as donné la vision il y a environ 2 ans, d'emmagasiner la nourriture, ces beaux légumes sains que j'ai vus dans la vision qui étaient emmagasinés ici dans ce tabernacle. Puissions-nous en recevoir aujourd'hui un plein tonneau. Accorde-le, Seigneur, ou une cargaison sur bande magnétique. Que cela puisse nous révéler Jésus-Christ à l'heure où nous vivons pour nous donner la force qui soutient, la force spirituelle en vue de la tâche qui est devant nous. Accorde-le, Père. Bénis tes enfants que voici. Ils sont ici ce matin venus de nombreuses régions du pays. C'est une matinée chaude et humide. Mais nous sentons malgré tout la présence du Saint-Esprit dans tout ceci. Nous pensons à John Wesley, à Calvin, à Sankey, à Knox, à Finney et à beaucoup d'autres qui n'avaient même pas de ventilateur électrique. Les gens étaient assis là dans les salles, le visage ruisselant de sueur. Les femmes bien couvertes et bien vêtues étaient assises dans les auditoires et transpiraient tellement que leurs vêtements étaient trempés pendant qu'elles écoutaient la parole de Dieu, qu'elles nourrissaient leur âme. Nous avons le sentiment qu'à présent, Seigneur, ils sont dans le repos quelque part, là-bas, attendant la venue du Seigneur. Garde-nous unis, Père. Fais que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige. Accorde-nous une longue vie à ton service ce matin. Donne-nous ce grand message que nous comptons recevoir de ta parole et qu'il puisse toucher chaque cœur. Fais que les lèvres qui parleront, Seigneur, prononcent la vérité. Fait que le cœur qui écoutera soit fertile afin de recevoir la vérité et puisse-t-elle croître et former de grands arbres de vie éternelle qui seront des lumières éclatantes et des épîtres lues de tous les hommes afin qu'on puisse reconnaître que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit au milieu de nous. Fait que nous soyons tellement remplis d'amour et du fruit de l'Esprit que les autres hommes et femmes, garçons et filles pourront voir les résultats de la vie de Christ encore vivant en nous 2000 ans après ce grand événement. Accorde-le, Père, afin que cela serve à t'honorer. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais lire dans les Écritures, et là, j'espère que vous avez vos crayons, vos papiers et tout prêts. Et frère Neville, toi, tu es là sans bouger. J'avais juste enlevé mon veston, ça c'est... Excusez-moi d'avoir enlevé mon veston, mais il fait terriblement chaud sur l'estrade. Maintenant, je veux que vous preniez l'épître aux Colossiens, le chapitre 1 de Colossiens. Et alors que nous lirons ceci, en commençant, je veux que quand vous rentrerez chez vous, que vous lisiez tout ce chapitre des Colossiens. Mais ce matin, je veux que vous lisiez avec moi du verset 15 au verset 29 inclus. Et maintenant, soyez aussi patient que possible, car à mon avis, c'est par ceci, si Dieu me vient en aide, que seront révélées et ramenées à votre esprit toutes ces autres choses dont j'ai parlé depuis que le tabernacle existe. Pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Voici pourquoi. Alors, à partir du verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir en tout la prééminence. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât, en lui. Laissez-moi remettre un peu l'accent là-dessus, ce verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Observez vers quoi allait cette réconciliation. Et vous qui étiez parfois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Par sa mort dans le corps de sa chair, vous vous pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui doit manquer aux affections de Christ. Je l'achève en chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints.
Age and from generation, but now is made manifest to his saints.
Je veux aussi relire ce verset. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec la force qui agit puissamment en moi. Maintenant, comme sujet, voici ce que je veux tirer de là, comme sujet, ce que je base sur toute la Bible, mais que je veux que nous intitulions « Christ est le mystère de Dieu révélé ». Christ, qui est le mystère de Dieu révélé. Maintenant, j'ai choisi d'apporter ça comme une leçon d'école du dimanche pour que nous puissions lire tous ensemble et avoir cette communion ensemble. Maintenant, le mystère secret de Dieu qu'il détenait avant le commencement du monde. Là, tout au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir et qu'il allait accomplir. Et c'était dans un but, c'était afin qu'il puisse s'exprimer. Parce qu'au début, il n'y avait même pas même de lune, d'étoiles, d'atomes, de molécules, ni quoi que ce soit. Il était Dieu. Mais il n'était pas tout à fait Dieu à ce moment-là, parce que Dieu est un objet d'adoration et il n'y avait rien pour l'adorer. Donc, il avait dans sa grande pensée le désir de voir ses attributs s'exprimer. L'amour, c'était en lui. D'être un père, c'était en lui. D'être un fils, c'était en lui. D'être un sauveur, c'était en lui. D'être un guérisseur, c'était en lui. Et tous ces grands attributs que nous voyons maintenant exprimés, ils étaient en Dieu. Donc, à mon avis, la première chose qu'il a créée, ce sont les anges. Et alors, ils l'ont adoré, c'est ce qui a fait de lui Dieu. Et ça a été son point de départ. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, de développer dans des messages précédents. Bon, alors, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait même une molécule dans la terre. Il n'y avait rien. Tout était ténèbres. Il n'y avait pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles, rien. Il était alors Dieu, comme il l'a demandé à Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé le monde? » Tu vois, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Tu vois, alors, où étais-tu? Voyez, c'était il y a très longtemps, avant la terre. Alors, Dieu avait un dessein et un mystère caché. Et c'est de cela que je veux parler à l'Église ce matin, du mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée dès avant le commencement du monde. et comment cela s'est dévoilé au fil du temps jusqu'à cette heure présente où nous vivons. Voyez? Alors vous comprendrez clairement là, voyez, ce qui, je crois, est en train de s'accomplir. Le grand mystère de Dieu, le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret, personne n'en a rien su, même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que sous notre septième mystère, quand le septième sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Jésus, quand il était sur terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Il a dit, ce n'est même pas, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Vous voyez, Dieu garde cela pour lui seul, c'est un secret. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Sept tonnerres ont fait entendre leur voix et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Vous voyez, la venue du Seigneur, ça c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra, et heureusement qu'il ne le révèle pas. Non, il l'a montré ou révélé dans tous les types contenus dans la Bible. Donc, toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ. Toute la Bible exprime un seul but que Dieu avait, un seul dessein qu'il voulait mettre à exécution dans toute la Bible. Et tous les actes des croyants dans la Bible étaient des types qui exprimaient le grand but de Dieu. Et maintenant, en ce dernier jour, il l'a révélé et il le montre. Et avec l'aide de Dieu, nous le verrons ici même ce matin, ce que le Seigneur a toujours eu dans sa pensée et qu'il a exprimé. Par conséquent, vous pouvez voir tout ce que ça a signifié pour moi de savoir cela et ensuite d'essayer de l'apporter aux gens. Voyez? Et alors, je ne suis pas encore entré dans les détails pour essayer de l'expliquer comme Dieu me l'a révélé. Maintenant, si vous voulez noter ceci, j'ai un certain nombre de passages que je voudrais lire. Alors maintenant, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24 de Luc, nous voyons là que ce sont les deux apôtres sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus, après sa résurrection, s'approche. Il était en route vers Emmaüs. Et chemin faisant, il réfléchissait, il discutait, il pleurait sa mort pour l'avoir vu souffrir, à leur avis, sans aucune raison valable. On avait pris leur Seigneur et on l'avait crucifié. Et là, il faisait le trajet en pleurant. Il a quitté le bas-côté de la route et s'est approché. Et il a commencé à leur parler de Christ. Il a dit, « Oh! Homme sans intelligence et lent à comprendre, ne savez-vous pas que tous les prophètes et les psaumes, voyez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'identifiaient en disant à ses apôtres que tous les prophètes et tous les psaumes et tout, c'était lui exprimé. Voyez? Maintenant, la raison pour laquelle je n'ai pas choisi de prêcher ce matin, c'est parce que je me suis dit que par un enseignement, nous aurions une meilleure compréhension qu'en prenant simplement un texte et en le survolant. Nous allons donc présenter cela sous forme d'enseignement. Alors, il disait que tous les psaumes et tous les prophètes parlaient de lui. Eh bien, alors là, cela montre que tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament et tous les psaumes, les chants, les cantiques qu'on chantait, il en était le sujet. Prenez le psaume 22 et chantez-le et faites une comparaison avec le matin de la crucifixion. Voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Toutes ces choses. Et pourtant, ils chantaient ce psaume là-bas, dans le temple, tout en crucifiant la personne en question. Voyez ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, ces grands docteurs. Et pourtant, tellement aveuglés qu'ils lisaient les prophètes et chantaient les cantiques tout en commettant le crime que ceux-ci avaient annoncé à leur sujet. La même chose est en train de se produire ce matin. Maintenant, écoutez bien, parce que là, je ne vais pas tenir compte de ce que dit cette horloge. Je tiens à ce que vous saisissiez ceci, voyez. J'y tiens à ce que vous saisissiez, voyez. Donc, vous pouvez voir ici qu'à la base, au commencement, la pensée même que Dieu avait à l'esprit, il l'a cachée à tous ses érudits. Et il n'y a qu'un certain nombre, un nombre sélectionné et prédestiné, un peuple prédestiné qui a entendu cela. Et maintenant, revenez-en en arrière et sondez l'Écriture tout au long de l'âge des prophètes et voyez si ce n'était pas la même chose, voyez? Bon, et Jésus ici les renvoie aux prophètes et aux psaumes et il déclare qu'ils parlaient tous de lui, voyez? Et voici que ces docteurs juifs, ces rabbins, ces docteurs de la loi, ces professeurs avaient fait exactement la même chose que dans le passé. Maintenant, remarquez, il a aussi dit, « Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Sondez les Écritures, toutes les Écritures. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Vous montrer que cette Bible est la chose vraie. L'autre jour, je me trouvais dans une chambre d'hôpital et je parlais, une sœur m'avait demandé d'expliquer notre position sur les dénominations, pourquoi nous sommes contre les dénominations en présence de gens dénominationnels. Vous voyez, tout doit être ramené à la parole, parce que la parole est Dieu, voyez. Et Jésus déclarait la même chose ici que la parole, c'est lui. On ne peut pas créer une contradiction dans l'Écriture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fait chair, voyez. Alors ici, il dit, sondez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et c'est vrai, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et je rends témoignage d'elles. Si je ne fais pas les œuvres qu'il a été promis que je ferai, alors ne m'écoutez pas. Mais si je fais ces œuvres et que vous ne pouvez pas me croire, croyez à ces œuvres parce qu'elles rendent témoignage qu'il est la parole. Oh, ça ne pourrait pas être plus clair, il me semble, voyez? Très bien. Alors, sondez les Écritures. Il a déclaré que Moïse et toutes les lois, et ainsi de suite, les prophètes et les psaumes avaient parlé de lui. Il a aussi déclaré que les Écritures rendent témoignage de lui. Il est le thème principal de toute la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ses versets, relisez-la. Voyez? Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la, parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible est Christ, il est la parole. Quand vous lisez au commencement, Dieu créa, voilà Christ, voyez? Chaque de là jusqu'à l'Amen dans l'Apocalypse, chaque mot rend témoignage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces livres ajoutés qu'on appelle le second livre de Daniel et le livre des Maccabées qui ajoute le purgatoire et des trucs comme ça, vous voyez, il n'est pas fait mention de ces choses dans l'Écriture, vous voyez, ça ne va pas avec le reste, il n'y a pas de place là pour y mettre le purgatoire, il n'y a pas de place pour y mettre l'intersection des saints et tout ça, il n'y a pas de place pour ça, il n'y a pas de place pour une dénomination, il n'y a pas de place pour des credos extérieurs, là, à la Bible, vous voyez, alors quand vous voyez ces choses-là, vraiment, elle ne cadre pas avec le tableau. Et c'est pourquoi les gens qui ont ajouté ces choses se retrouvent avec un puzzle tout embrouillé, vous voyez. Ils n'arrivent pas à l'assembler correctement, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par contre, si la chose est assemblée correctement, on a là tout le tableau de la chute, de la gêne et de la régénération, le tableau complet de la création et le plan complet de Dieu révélé précisément en Jésus-Christ. Amen. Voilà le tableau complet, tous les éléments placés correctement, jusque dans les moindres détails. C'est vraiment comme, bon, je ne veux pas être sacrilège en disant ceci, mais c'est vraiment comme assembler les morceaux d'un puzzle. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des tableaux horribles à voir, dire, nous sommes des croyants et la vache est en train de brouter l'herbe au sommet de l'arbre. Ça ne marche pas, ça c'est quand ils disent, oh, il est pareil en tout, excepté, il est le même hier aujourd'hui, éternellement en tout, excepté telle chose, voyez. C'est là qu'on gâche le tableau. La Bible dit qu'il est le même. Dans Jean 5 ou dans Jean 14, 12, il est dit, celui qui naît, n'importe qui, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Eh bien, ça c'était pour un autre âge. Là encore, vous vous retrouvez avec un tableau qui cloche. Vous avez un homme qui pêche du poisson en plein désert, au milieu du sable brûlant, là où il n'y a pas de poisson, voyez. Il faut le ramener pêcher en Galilée, là où il y a beaucoup de poissons, voyez. Vous devez présenter le tableau correctement. C'est le grand tableau de Dieu et il n'y a qu'un moyen de le voir, c'est quand vous voyez Jésus-Christ. Voilà toute la Bible. Il est le thème principal de la Bible. Maintenant, vous comprenez qu'on pourrait utiliser n'importe lequel de ces passages comme sujet. Et c'est vraiment dur pour un prédicateur de cette ère. Il aimerait bien continuer à développer ça, mais il faut revenir à ce que nous sommes en train d'enseigner. Il est le thème principal de la Bible. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans le récit historique de la Bible. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre historique. C'est un livre d'amour. C'est un livre de cantiques. C'est un livre de vie. Et là-dedans, vous trouvez Christ. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans le récit historique. Et dans la Bible, il est aussi les choses à venir. Donc, il était avant et jusqu'après. Alors, qu'est-ce que ça fait de lui? Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand vous injectez quelque chose là-dedans qui ne démontre pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, frère Lee, où est-ce que ça vous amène? Vous avez là un tableau affreux, car il était le récit historique, vous voyez, il est le prophète, il est les psaumes, il est tout. Et si, comme vous le présentez, il n'est pas tout et le même, alors, où est-ce que, de quoi est-ce que a l'air votre tableau? Est-ce que vous voyez ça? Très bien. C'est de lui qu'il s'agit. Il était les prophètes, il était en eux, il était dans les psaumes, il était dans le récit historique, et il est les choses à venir, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8, si vous notez ça. Alors, il devrait être le principal, si c'est ce qu'il est, et c'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Alors, si c'est bien ce qu'il est, alors il devait être le thème principal de nos conversations, de nos pensées, de nos chants, de nos démarches. Il devrait être le thème principal de notre vie. Il est le thème principal de la Bible et que la Bible est en nous, alors il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons, disons et pensons. Ce devrait être Christ, pas vrai? Très bien. Puisque c'est ce que nous pensons, puisqu'il a été établi comme chef sur toutes choses pour nous. C'est ce qui est dit ici dans les Colossiens. Il est le chef de toutes choses pour nous, car il a été fait pour nous, et nous sommes considérés comme étant toutes choses, vous dites. Et le pécheur, il a été établi comme juge du pécheur. Si celui-ci n'accepte pas cela, il est devenu la gloire du croyant qui accepte vraiment cela. Donc là, la chose, c'est que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Il faut que la nuit pour exprimer la gloire du jour. Il faut un vase d'un usage vil pour exprimer l'amour et l'attention témoignée au vase qui est honoré. Il faut une femme mauvaise qui porte des vêtements indécents et qui vend son corps pour exprimer la vertu d'une dame bien, d'une vraie dame, voyez? Il faut un homme qui soit un escroc et un voleur pour exprimer l'authenticité d'un vrai croyant, d'un vrai chrétien. Il faut l'hypocrite pour mettre en évidence le croyant, ce qu'il est. Donc, toutes choses ont été faites par lui. Et puisqu'il a été fait, toutes choses faites pour nous tous, toutes choses ont été faites pour ou par lui, puisque c'est vrai, alors c'est à lui que nous devrions, qu'il faudrait nous identifier. Nous devrions nous-mêmes nous identifier à lui, parce que lui s'est identifié à nous. Nous devrions nous identifier à lui. Comment? En vivant pour lui, pas seulement par une confession. Tant de gens se bornent à une confession, ils déclarent, je dis qu'on en est maintenant au point où êtes-vous chrétien, je suis méthodiste. Eh bien, on est loin d'être, de se faire reconnaître ainsi comme chrétien. Eh bien, regardez ce que font les méthodistes. Je suis baptiste, eh bien, regardez ce que font les baptistes. Je suis catholique, regardez ce qu'ils font, voyez. Mais la seule manière pour vous d'être véritablement un chrétien, c'est que Christ s'identifie lui-même en vous. Oui, ça pique ça. J'espère que tous ceux qui écouteront la bande aussi, ils saisiront bien ça, voyez? Voyez? Vous dites, je suis pentecôtiste, ça ne veut rien dire du tout. Il s'agit de Christ identifié en vous. C'est alors qu'il vous a reconnu comme sien. Vous dites, j'ai parlé en langue, les démons le font aussi. J'ai poussé des cris de joie, les Mahométans, les Bouddhas et tous les autres poussent des cris de joie. Les Indiens crient pendant la danse du serpent, voyez, certainement, ils le font tous. Les sectes, les clans et tout le reste, ils crient et hurlent. Les gens hurlent et poussent des cris de joie au match de baseball. Mais quand Christ est identifié en vous, qu'il s'identifie lui-même, alors vous êtes semblable à Christ. En effet, le mot chrétien signifie être semblable à Christ. Voilà ce qui vous identifie. Très bien. Bon. Et puisque ce qui nous identifie, c'est lui, alors nous devrions nous identifier à lui, en vivant pour lui. Remarquez, Dieu a eu un triple dessein dans ce grand secret mystère. Dieu, dans son grand secret mystère qu'il détenait avant le commencement du monde, il a un triple dessein là-dedans. Et maintenant, ce que nous voulons aborder ce matin, c'est quel est ce triple dessein. Voyez, maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu qui est présent, et il nous le montrera. Alors, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. La première chose, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu, Jéhovah, qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour pouvoir être révélé aux gens, parce que ce serait trop mystérieux. Comment est-ce que ce grand être qui n'a jamais eu de commencement, après que vous avez dépassé le cycle des centaines de milliards et des billions d'années-lumière dans l'espace, et que vous avez continué jusque dans l'infini, dans l'éternité, il y a une glorieuse créature qui était tout ça et qui l'est toujours. Mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils, un homme. C'est pour ça que Jésus disait constamment « le Fils de l'homme ». Vous voyez, ils ne savaient pas de quoi il parlait pendant beaucoup d'entre eux. Mais maintenant, vous saisissez, vous voyez, il voulait s'exprimer. C'était là un de ses trois grands desseins, de s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ. Deuxièmement, d'avoir la prééminence dans son corps de croyant, c'est-à-dire son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Alors ça, il a pu le faire dans Adam et Ève, mais le péché les avait séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Oh là là! Oh, ceci, quelle richesse pour moi! Rien que d'y penser, voyez? Vous voyez quel était le dessein de Dieu? Alors pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude, la totalité de son attribut. En effet, là, il aurait pu être un père, c'est vrai, mais il est aussi un sauveur. Vous dites, comment le savez-vous? Il l'est parce que j'en ai fait l'expérience. Voyez, il est un sauveur. Il fallait qu'il l'exprime. Et comment peut-il le faire uniquement par Christ? Comment peut-il être un fils uniquement par Christ? Comment peut-il être un guérisseur uniquement par Christ? Voyez, toute chose se retrouve dans cette personne-là, Jésus-Christ. Oh là là! Quand j'y pense, je vois les dénominations disparaître de la scène et tout le reste se retirer, voyez, quand je vois le grand dessein de Dieu se révéler et avoir, premièrement, se révéler en Christ, la plénitude de la divinité corporellement, et ensuite amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple afin d'avoir la prééminence, la surveillance, la direction. L'autre soir, si vous n'avez pas eu la bande, j'ai prêché ici un soir sur un prisonnier de Jésus-Christ. Paul, un prisonnier, voyez? Quand Dieu vous amène à être son prisonnier, alors vous ne pouvez pas faire autre chose que ce que l'Esprit dit de faire. Paul, avec toute sa grande intelligence, il a été instruit par Gamaliel en vue de devenir un jour un grand sacrificateur ou un grand rabbin. Il avait de hautes ambitions. Intellectuellement, c'était un grand homme, une grande autorité, un grand homme dans la nation. Mais il lui a fallu sacrifier tout ça, vous voyez, pour devenir une partie de la parole, pour exprimer Jésus-Christ. Il savait ce que c'était que de dire. Il avait l'idée d'aller quelque part. Des frères avaient fait appel à lui, mais elle a été empêchée par l'Esprit de faire sa propre volonté. Oh! Si les gens qui sont à moitié spirituels pouvaient saisir ça, voyez, il a été empêché de faire sa propre volonté. Il pouvait faire seulement, l'Esprit m'a empêché, voyez. Il était prisonnier de Christ. Et puis un jour, cette petite diseuse de bonne aventure, il savait, Paul le savait, qu'il avait le pouvoir de chasser ce démon, mais il ne pouvait le faire qu'au gré de la volonté de Dieu. Jour après jour, elle le suivait en criant après lui. Mais un jour, l'Esprit lui a donné la permission, alors il l'a réprimandé. A réprimandé l'Esprit qui était en elle, voyez. Il savait ce que c'était que d'être un prisonnier. Moïse, son intellectualisme, il a fallu qu'il le perde pour trouver Christ, pour être un prisonnier. Alors, lorsque Dieu lui vidait de tout ce qui était du monde et de tout son côté d'homme puissant, là, debout en présence de cette colonne de feu, ce jour-là, il s'est retrouvé sans voix. Il a dit qu'il ne pouvait même pas parler. Dieu avait alors un prisonnier, voyez. Vous n'allez plus essayer d'agir par vous-même. Ensuite, il a fallu que Dieu revête cet homme ou qu'il l'investisse de suffisamment de puissance pour qu'il puisse aller là-bas. Il a dit, Seigneur, j'ai dit à Pharaon ce que tu as dit. Il a refusé. Il a dit, alors, prends ceci, ton bâton. C'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Va là-bas et dirige-le vers l'Orient et fais venir les mouches. Et des mouches ont été créées parce qu'il avait un prisonnier que Pharaon ne pouvait soudoyer avec rien. Personne d'autre n'arrivait à le détourner d'aucune manière. Il était entièrement prisonnier des chaînes de la parole de Dieu liées uniquement à l'insidie du Seigneur. Oh, puisse Dieu avoir des prisonniers comme celui-là. Alors, c'est là qu'il pourra exprimer cette prééminence, vous voyez. Il aura amené cet homme ou cette personne à ne connaître rien d'autre que Christ. Vous saisissez ce que je veux dire? Très bien. Ça, c'est deuxièmement. Premièrement, s'exprimer entièrement, Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir par ce moyen la prééminence dans son Église, qui est son corps, l'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Très bien. Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte, perdue par le péché du premier Adam. Comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir, parlait avec eux, fraternisait avec eux. Mais voilà que le péché et la mort les avaient séparés de sa présence et de toute l'expression de lui-même. Vous comprenez? Avant la fondation du monde, d'exprimer tous ses attributs, ce qu'il était. C'est pourquoi, si un trinitaire ici voulait simplement faire preuve d'ouverture un instant, vous voyez bien que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas trois dieux. Ce sont trois attributs du même Dieu. Vous voyez? C'en est l'expression. Père, il était. Il voulait être un père. Il était un père. Il était un fils. Et il est le Saint-Esprit. Et le Père et le Saint-Esprit, c'est le même esprit, vous voyez, n'est-ce pas? Vous saisissez? Pas trois dieux. C'est le diable qui vous a dit ces choses pour faire de vous un idolâtre. Vous voyez? C'est un seul Dieu, exprimé dans trois attributs. Être Père, être sauveur, être fils, être guérisseur, voyez? Ce sont des expressions de lui-même. Je veux continuer un petit peu sur ma lancée avant, afin que même les gens qui écouteront la banque saisissent l'idée et puissent voir. Ça me prendrait plusieurs tours d'horloge, là, pour chacun de ces sujets. Mais j'espère que je présente cela assez clairement pour que vous voyez où je vais en venir, voyez? Dieu, exprimé en Jésus-Christ, qui était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, la plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite dans son Église. La prééminence, tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ, et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église. Les croyants, pas la dénomination, nous allons y venir dans quelques minutes, et vous serez alors débarrassés de cette idée pour toujours, voyez? Vous montrez avec l'aide de Dieu ce qui cause cela, s'il veut bien nous le permettre. Donc, quel est son dessein? S'exprimer en tant que fils, voyez, et qu'alors habite en lui la plénitude de la divinité corporellement. J'ai Colossiens juste ici devant moi, voyez. Ça, d'un bout à l'autre de l'Écriture, c'était le dessein de Dieu. Et qu'ensuite, par la vie de ce Fils, par sa croix, par le sang, comme il est d'ici, de sa croix, il puisse réconcilier avec lui-même un corps, une épouse, c'est-à-dire Ève, la deuxième Ève. Et Dieu avait présenté cela sous forme de type, comme il l'a fait en Moïse et tous les autres. Il avait fait la même chose en Adam et Ève, il avait présenté là comme type de Christ et l'épouse. Il est le deuxième Adam. L'Église est la deuxième Ève. Et tant que la deuxième Ève fait des compromis au détriment de la parole, ne fait-elle pas la même chose que la première Ève? Il essaie de dire, eh bien ça, c'était pour un autre âge. Nous allons y venir dans quelques minutes à voir s'il a dit que c'était pour un autre âge. Pour un autre âge, comment est-ce possible alors qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Mais Dieu avait ce dessein. Il est caché aux yeux des intelligents et des sages. Il l'a révélé aux enfants prédestinés qui étaient prédestinés à le recevoir. Voilà pourquoi, observez tout au long de l'âge, lorsque la lumière touchait certaines personnes, elle la rejetait et la repoussait aussitôt. Il y avait là de grands intellectuels et de grands sacrificateurs. Il y avait des rabbins formés par de grands docteurs et par des gens en position d'autorité, comme différentes personnes, comme entre autres Nicodème et cet homme qui était d'une érudition éblouissante et qui n'arrivait même pas à comprendre cela. Il y avait là ces grands sacrificateurs et ces rabbins, et eux étaient instruits dans cette parole. Oh, ils la connaissaient intellectuellement. Il a dit, vous avez pour père le diable et vous ferez ses œuvres. Pensez-y, des hommes saints, on ne fait rien trouver à redire dans leur vie, ni dans la vie de leur père, ni dans la vie de leur grand-père, ni dans la vie de leur arrière-grand-père. Autrement dit, ils mouraient dans la honte. On les lapidait. Mais voici Jésus qui appelle ce groupe-là une bande de démons, eux, des gens religieux. Alors, oh, voici maintenant la grande révélation. Maintenant, pour rétablir son lien de parenté, pour restaurer. Or, il fallait qu'il les laisse se perdre. Vous comprenez? Il fallait qu'il les laisse pécher, qu'il leur donne le libre arbitre. Il ne peut pas les faire pécher tout en restant Dieu et les punir ensuite pour quelque chose qu'il leur aurait fait faire. Mais quand il a fait l'homme, de l'homme son associé, alors il a donné à l'homme le droit d'agir sur la base du libre arbitre. Voyez, il vous donne ce même droit aujourd'hui. Voyez? Vous agissez comme vous voulez. Vous avez le libre arbitre. Et donc, s'il a donné ça au premier homme, il doit aussi le donner au deuxième. Il doit le donner à tout le monde. Sinon, il aurait mal agi quand il l'a fait au départ, voyez. Mais voilà, les conditions sont les mêmes pour tous. Maintenant, remarquons. Alors qu'il allait restaurer cela, et là, il a laissé cet homme faire ça tout en sachant qu'il le ferait. Il savait qu'il le ferait, mais qu'est-ce que cela a eu pour conséquence de manifester son attribut de sauveur? Et le dessein entier repose alors en Jésus-Christ, qui allait devenir Dieu lui-même, allait subir la peine imposée par sa propre loi, la mort. Il allait mourir pour racheter l'épouse qui était perdue pour l'avoir rejetée. Quand Ève s'est éloignée de la parole, elle s'est éloignée de son compagnon. De même, quand l'Église s'éloigne de la parole pour aller vers une dénomination, elle rejette, elle commet des fornications avec le monde de la sagesse humaine en rejetant l'autorité de la parole de Dieu. Ça vous paraît clair? La Bible dit commettant des fornications spirituelles. Toute parole de la Bible qu'on rejette, on y ajoute une interprétation personnelle, quelle qu'elle soit, c'est carrément rejeter le Dieu qui est votre mari et commettre un adultère à son égard. Jamais une adultère n'entre dans le royaume des cieux, ça nous le savons, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est ce qu'Ève a fait au départ. Maintenant, remarquez encore. Donc, quel est son triple dessein? Se manifester en Jésus-Christ, entrer dans le corps par Jésus-Christ pour avoir la prééminence, afin de quoi? Rétablir l'Éden, restaurer ce qui a été perdu. C'était la seule chose qui n'était pas en bon ordre. Toutes ces autres choses étaient en bon ordre. Mais il fallait qu'il laisse, qu'il donne à l'homme le libre arbitre pour qu'il tombe. Et qu'ainsi il puisse être un sauveur, manifester ce qui est en lui, voyez, son attribut de sauveur. Il fallait que quelque chose soit perdu. Et du fait même que l'homme soit tombé et a été perdu, il en est devenu le sauveur en appliquant sa propre loi. Et ça, il ne pouvait pas le faire en tant que grand Jéhovah qui couvrait tout l'espace et le temps. Voyez, il ne pouvait pas le faire. Il fallait qu'il devienne un homme. Alors il a établi un lien de parenté avec l'homme qui était perdu. Amen. Il est devenu un homme. Dieu fait chair. Alléluia! Vous trouvez que je suis excité, mais je ne le suis pas. C'est quelque chose à l'intérieur. Dieu est devenu de Dieu qu'il était. Il est devenu moi, afin de prendre mon péché sur lui, pour qu'il puisse faire de moi lui. Amen. Là encore, son grand dessein de produire des fils et des filles de Dieu, car il est le Père éternel. Cet attribut était en lui, voyez? Il fallait donc qu'il soit manifesté. Maintenant, voyez-vous la totalité de ce triple dessein? Voyez, de s'exprimer. Il veut devenir. Or, le monde est perdu. Maintenant, il faut qu'il s'exprime dans un homme pour devenir un sauveur par la réconciliation du sang de sa croix. Donc, il a fallu qu'il devienne cela, qu'il meure pour sauver l'Église et revenir habiter en elle, avoir la prééminence dans son Église. Maintenant, souvenez-vous, ça ne peut pas être, ça ne sera pas, ça ne sera jamais et n'a jamais été une dénomination. Il faut qu'il ait la prééminence et il ait la parole. Amen. Comment un credo, quel qu'il soit, peut-il être, y être injecté? L'Église devient alors une prostituée quand elle accepte les paroles d'un homme, quel qu'il soit, tout credo ou toute dénomination, elles sont aussi tôt et étiquetées selon l'Apocalypse 17 comme prostituées et impudiques. L'Église catholique romaine étant la prostituée, les protestants étant les impudiques, c'est tout à fait clair, exactement comme n'importe qui pourrait le lire. Nous avons vu les âges de l'Église et vous pourrez constater ça sur ces bandes si vous le désirez. Exactement. Donc, tout ce qui s'associe à un credo extérieur à la Bible est une prostituée aux yeux de Dieu. Elles ont fait la même chose que ce qu'avait fait Ève. Elles se sont éloignées de la parole qui est Christ. Oh là là, très bien. Maintenant, nous voyons son mystère qu'il avait caché dans sa pensée avant la fondation du monde. Maintenant, aimeriez-vous lire un peu là-dessus? Lisons donc. Avez-vous beaucoup de temps? On va lire ça. Alors, prenons tous au moins un passage, l'Épître aux Éphésiens, et commençons à lire au chapitre 1 d'Éphésiens. Et maintenant, pour continuer la leçon d'école du dimanche sur cette triple manifestation de Christ, lisons Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Maintenant, regardez bien, cela ne s'adresse pas au monde, mais aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on entre en Jésus-Christ? En adhérant à l'Église? Par une naissance, dans un seul esprit, 1 Corinthiens 12. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, voyez? Très bien, c'est à ça, ces gens-là qu'ils parlent. Cela ne s'adresse pas au monde extérieur. Nous ne pouvons pas en parler aux pécheurs parce qu'ils ne connaissent rien au sujet. Paul ne l'a pas adressé aux pécheurs. Il a dit ceci est destiné à ce groupe-là qui est en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes. Oh, comme j'aimerais avoir du temps. Tenez, j'ai une note ici dans ma Bible à propos des lieux célestes, ce que sont les lieux célestes. Les lieux célestes, en bref, c'est la position du croyant en Christ. Voyez, là où le croyant se tient en Christ, dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus, écoutez bien, nous a élus avant la fondation du monde. Quand nous a-t-il élus? Avant la fondation du monde, quand son grand mystère était caché, son grand secret. En Christ, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son quoi? Amour. Il nous a quoi? Prédestiné par Jésus-Christ à être adopté selon le dessein bienveillant de sa volonté. Prédestiné, voilà le mystère. Il, avant même que Christ ou que quoi que ce soit d'autre soit sur terre, voyez-vous son grand mystère, il a élu l'épouse. Il savait qu'Ève tomberait en étant incrédule à l'égard de la parole. Il savait qu'elle tomberait, mais il choisirait une épouse qui ne tomberait pas, qui resterait attachée à cette parole en dépit de ce que tout le reste du monde pourrait en dire. Eux, ils resteraient attachés à cette parole. Ils sont prédestinés à cette position-là. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, il a prédestiné l'Église à cette grande et glorieuse position. Maintenant, voyez-vous son secret? De faire quoi? De rétablir Ève qui était tombée. En effet, elle était une préfiguration de l'Église. Et maintenant, remarquez, de même que Dieu a ouvert le côté d'Adam et a retiré Ève de sa propre chair et de son propre sang, et qu'il a séparé de son esprit qui était masculin et féminin, la partie féminine, et l'a placé en Ève, il a pris dans le côté d'Adam de cette côte dont il a formé Ève. De même, Dieu a fait la même chose en retirant du côté de Christ le sang et l'eau, et Christ est la parole. De la parole, il a formé son Église, Ève, voyez, et il l'a ramené à lui, de nouveau, racheté par le sang qui était sorti de son corps. Vous le voyez maintenant? Le grand mystère de Dieu, maintenant en train d'être dévoilé, qui avait été caché depuis la fondation du monde, mais qu'il a montré par préfiguration tout au long. Maintenant, regardez bien, c'est ce que nous voyons, qu'il a fait ça ici dans Éphésiens, à bien d'autres endroits, mais celui-là suffira pour que vous... Alors, tout au long des âges, il a lentement dévoilé ce mystère. Pouvez-vous voir maintenant? Alors, tout au long des... Comment a-t-il? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la préfiguration? Il a ouvert le côté d'Adam et a pris une partie de sa chair, ce qui était Adam, pour faire Ève. L'épouse doit être la parole, car il est la parole. Elle ne peut pas s'appuyer sur des credos. Elle ne peut pas s'appuyer sur une dénomination. Elle ne peut pas s'appuyer sur une bonne conduite. Elle doit s'appuyer uniquement sur la parole, parce qu'elle est une partie de celle-ci. Elle a été prise de Christ. Voyez? Et pour avoir la certitude, là, en ce qui concerne tout l'enlèvement maintenant, Luther en était une partie, Wesley en était une partie, les prophètes en étaient une partie, s'ils n'en sont pas une partie, par la révélation, là, ils formaient le corps, les pieds, les orteils, les bras, et ainsi de suite, jusqu'à la tête. Nous allons y venir dans quelques minutes. Voyez, c'est ce qui constitue l'enlèvement entier. C'est le corps de la parole qui est Christ. Amen. En dehors de cela, vous êtes perdus, quelle que soit votre bonté ou votre relation ou votre communion ou votre organisation, vous êtes perdus si cette parole n'est pas en vous. Si vous demeurez en moi, la parole, que ma parole demeure en vous, alors vous demandez ce que vous voulez. Parce que vous et la parole, c'est la même chose. Il a la prééminence. C'est lui qui gouverne. Vous êtes son prisonnier. Le monde est mort. Vous n'avez plus. Vous voyez les autres vivre comme ils le font, mais vous ne vivez pas comme eux. Vous êtes un prisonnier. Vous êtes attaché à lui sous son joug. Mon joug est doux. Attaché à lui sous le joug de Christ, de sa parole. Je fais seulement ce qui est agréable au Père. Et si vous ne pouvez pas croire que je suis lui, alors croyez la parole. Comme c'est parfait. Remarquez. Maintenant. Au fil des âges, il a peu à peu révélé cela, lentement dévoilé le mystère par les prophètes et par les prophètes et par les types. Voyez, maintenant, nous pouvons continuer en abordant ce point-là. Il s'est exprimé en Moïse. Regardez Moïse, né au temps de la persécution des enfants. Il est né pour être un libérateur. Il a été caché parmi les gens, tout comme Jésus, qui a été emmené en Égypte. Il est sorti, il est monté sur la montagne. Il en est revenu avec les commandements. Jésus est monté sur la montagne, son premier sermon, le sermon sur la montagne. Il en est redescendu avec les commandements. Vous les avez entendus dire, les anciens, tu ne commettras point d'adultère. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère, législateur, sacrificateur, roi, conducteur, parfaitement. Il s'est exprimé en Joseph, né au milieu de la dénomination de ses frères. Ils l'ont haï sans cause parce qu'il était spirituel, il avait des visions, Dieu était avec lui, il pouvait interpréter des songes et ses frères le haïssaient. Il a été vendu par ses frères pour presque 30 pièces d'argent, exactement comme lui a été vendu par Judas Iscariote, un de ses frères, pour 30 pièces d'argent. Il a été jeté dans une fosse et on le pensait mort. C'est vrai, et à son père et aux autres, ils ont raconté qu'il était mort. Donc, il a été jeté dans cette fosse. Il en a été retiré. Il est allé à la droite de Pharaon, dans le cachot, comme il a souffert là-bas. Et deux personnes ont été sauvées, les chansons et le panetier. L'un d'eux a été perdu et l'autre sauvé, plutôt. Et les chansons, l'un d'eux a été perdu et l'autre sauvé. Tout comme sur la croix, quand il était dans sa prison, cloué à la croix pour nos péchés, qu'il était devenu prisonnier, un brigand a été perdu et l'autre sauvé. Voyez, exactement. Puis il s'est retrouvé à la droite de Pharaon, le roi au sujet duquel il avait eu un songe. Il avait eu la vision qu'il serait assis au pied du roi et que toute autorité en Égypte lui serait donnée. Sa vision devait s'accomplir. Il l'avait peut-être souvent examiné pendant qu'il était là-bas, dans cette prison. Sa barbe poussait et tout, mais il examinait cela. Un jour, sa vision allait devoir s'accomplir. Bien que cela tarde, cela doit se réaliser. Comme j'en ai parlé hier soir ou le soir précédent, mercredi soir, ici à La Réunion, voyez, cela doit se réaliser. Quand c'est Dieu qui le dit, il faut que cela se réalise. C'est un prophète confirmé. Cela doit s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole vient seulement au prophète. Le mot prophète signifie révélateur de la parole divine écrite, de même que quelqu'un qui annonce quelque chose, voyez, ou un voyant. Remarquez, et le voyant, comment on sait qu'il annonce quelque chose? C'est qu'il est confirmé divinement par le fait qu'il voit quelque chose d'avance et que cela s'accomplit. Si quelqu'un est prophète, il vous parlera et vous dira dans certaines choses que certaines choses vont arriver. S'il n'arrive pas, ne l'écoutez pas, mais si elle arrive, alors je suis avec lui. Vous avez intérêt à le craindre parce que je suis avec lui, vous voyez? C'est exact. Voilà la confirmation. Voilà comment on sait si c'est la vérité ou si ça ne l'est pas. Dieu répond au moyen de sa parole à son peuple, par des gens. Voyez, Dieu parle seulement par des hommes. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Le cèpe ne porte pas de fruits. Ce sont les sarments qui parlent, qui portent le fruit du cèpe. Remarquez, il en a toujours été ainsi. Alors nous voyons que Joseph, là, personne ne pouvait toucher Pharaon ou venir à lui sans d'abord voir Joseph. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par le Fils. Et quand Joseph quittait le trône ou sonnait de la trompette, que tous genoux fléchissent. Joseph, viens, gloire, un jour tout genou fléchira et toute langue confessera quand il quittera le trône de son père, voyez, pour venir. Tous rendront témoignage qu'il est le Fils de Dieu, soit que vous, à ce moment-là, ce sera trop tard, faites-le maintenant. Or, nous remarquons que par les types, nous pourrions même prendre David, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il est descendu de son trône, rejeté par son propre peuple. Il est monté sur la même montagne, la montagne des Oliviers, alors qu'il allait vers sa prison. Il allait vers sa prison parce qu'il avait été rejeté par ses frères et par son propre peuple. Il est monté en pleurant. C'était l'Esprit de Christ en lui, rejeté. En parcourant Jérusalem du regard, il a pleuré. Il a dit, « Jérusalem, combien de fois ai-je un roi rejeté? » 800 ans plus tard, le fils de David s'est tenu sur Jérusalem, là-haut, au-dessus de Jérusalem, et rejeté, il a pleuré sur Jérusalem et a dit, « Maintenant, ton heure est venue. » C'est vrai, voyez? Toutes ces choses étaient des types qui le représentaient simplement sous forme de types, mais le mystère était toujours caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient seulement qu'ils étaient conduits par l'Esprit à faire quelque chose. Alors, ils retenaient cela pour les derniers jours en vue de la grande révélation. Mais tout en l'exprimant, il s'est exprimé en Moïse, en David, en Joseph, en Élie, et ainsi de suite, tout au long. Nous pourrions prendre chacun de ces prophètes, présenter leur vie et montrer qu'elle exprimait Jésus-Christ parfaitement. Exactement. Par contre, il n'a jamais livré la totalité de son secret. Il attendait de le faire connaître dans les derniers jours, comme il l'avait promis. Il attendait qu'il soit pleinement compris, voyez, avant de pouvoir l'exprimer. S'il disait tout, ce que la Bible est écrite sous forme de mystère, Jésus a rendu grâce au Père à ce sujet, voyez, de ce qu'elle était écrite sous forme de mystère. À présent, la venue du Seigneur, c'est sous forme de mystère. Nous ne savons pas quand il vient, comment il vient, mais nous savons qu'il vient, voyez. Et de même, tout le mystère de Dieu attendait ce dernier jour, après que cela a déjà été mené à terme. C'est alors qu'il révèle et montre ce qu'il a fait. Oh là là, il n'a jamais livré la totalité de son mystère. Voici comme les choses se passent. Comparons avec les sept sceaux, là, quand Dieu a utilisé Martin Luther pour faire sortir pour cette première église ou pour cet âge de l'église, là, et qu'il a utilisé Jean Noisier, il les a un peu fait sortir, et il révélait en eux cet âge de l'église, là. Quand on revient parcourir la Bible maintenant, on voit bien, mais dans les derniers jours, la raison pour laquelle c'était quelque chose de si prodigieux, c'est qu'il en a parlé ici et qu'il a montré ses sept tonnerres et Look et Life. Le magazine Life, là, dans un de ses articles, a montré ce cercle de nuées et de lumière qui se trouvait là, qu'ils n'avaient pas compris, ils ne savent toujours pas, mais ici, il avait dit, va là-bas.